les philosophes publics est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie, créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouvert à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Tous les mois, nous nous retrouverons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.
Bonjour, aujourd'hui donc autour de la table, 5 membres des philosophes publics. Céline, Hélène, Gabriel, Monique et moi-même, Marc. Et nous allons donc évoquer plusieurs des actions qui sont déjà en cours. Une action liée à l'espace public et à des roues que nous faisons tourner. Donc Gabriel va commencer à nous parler, on en parlera un petit peu. Une action avec l'établissement pénitentiaire des mineurs de la Valentine. Et puis ensuite d'autres choses, voilà, dont nous parlerons tout à l'heure. Donc Gabriel, si tu veux commencer.
Oui, donc pendant que notre collectif se formait, moi j'ai eu assez vite intervenir dans l'espace public. L'espace public pour moi c'était un espace physique, ce qui ne va pas forcément de soi parce que l'espace public ça, c'est aussi un lieu symbolique qui permet le débat. Mais je pensais tout de suite la rue, quoi, l'espace public, la rue. Et ça s'est petit à petit mis en place. J'ai pensé surtout à comment on se présenterait, comment les gens seraient invités à s'arrêter pour discuter. Et je savais peut-être mieux ce que je voulais pas, c'est-à-dire je voulais pas que les gens pensent qu'on faisait signer des pétitions, ni qu'on était une sorte de secte, et ni non plus qu'on réalisait des sondages d'opinion. Donc, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais peut-être que le cas de la secte est intéressant parce que on serait un peu aux antipodes au sens où on voulait plutôt affiner l'esprit critique et que les consciences se réveillent plutôt que de les endormir. Voilà. Et donc, ça s'est présenté. Après, je voulais qu'il y ait on en discutait toujours entre nous, mais il fallait qu'il y ait un visuel, donc quelque chose qui soit pas rebutant. Et c'est comme ça que c'est mis en place petit à petit l'idée des roues multicolores à faire tourner. Pour qu'une question, donc il y avait des champs de réflexion. Bon, en fait, la roue, elle a 8 couleurs, enfin la grande, avec écrit politique, société, religion, mémoire, justice, travail, le bonheur, voilà. Donc la roue tourne, elle s'arrête sur un de ces thèmes, et après, selon les thèmes, il y a une petite boîte et on pioche une question en lien avec cette notion. Ah oui, il y a la justice. Voilà, donc après, je vais laisser la parole, mais juste par exemple. Être juste, est-ce obéir aux lois, par exemple. Bon, on en reparlera après, sais pas, voilà.
Oui, en fait, ce que tu rappelles pas, Gabriel, c'est tout le travail plastique que tu as fait et qui attirait les gens sur la Canebière, parce que les roues, c'était pas de simples roues, c'était des roues de bicyclette, avec des voiles colorées, avec des affiches qui invitaient vraiment les gens qui se promenaient sur la Canebière à s'arrêter autour de tables rondes. Et à discuter. Alors les gens étaient un peu étonnés, mais vous faites quoi? Pourquoi vous êtes là? Pour vous inviter à parler avec nous, parce qu'on aime bien parler, parce que c'est notre métier de parler, c'est notre métier de penser, et on a envie de faire ça avec vous. Et en fait, les gens se regardaient, souvent c'était des gens qui étaient en couple ou avec des enfants. Ça te dit de t'arrêter un peu? Ah ouais, ouais, ouais. Et puis les gens s'arrêtaient. Et on partait, on discutait, et ça a duré plus d'une demi-heure, quoi. Enfin,
d'une demi-heure par petit groupe de paroles.
Oui. Et à chaque fois, on était... Alors ça a été dit à la première émission. En fait, ce qu'on veut au sein des philosophes publics, c'est toujours intervenir à plusieurs. Donc même là, aux tables, on était deux philosophes avec les gens qui s'arrêtaient. Et ce qui était passionnant dans cette journée... Alors en plus, tous les philosophes publics sont intervenus. Donc sur la journée, on est tous intervenus. C'est que on rencontrait vraiment ce qu'on cherchait, c'est-à-dire la transgénération. On parlait avec des enfants, aussi bien qu'avec des parents et aussi bien qu'avec des personnes âgées, et puis dans toutes les langues. Ce qui fait qu'on était obligé de changer les philosophes publics de table parce qu'il y en avait qui parlaient espagnol, il y en avait qui parlaient anglais. Enfin, il y avait tout ce jeu qui s'est mis en place et qui vraiment créait du sens. Enfin, on est tous ressortis de cette journée passionnés.
On est ressortis de cette journée passionnés et fatigués. Voilà, je fais juste une petite remarque parce qu'effectivement, c'était très, très intense. On était vraiment très proches, bon, à deux. Heureusement, d'ailleurs, il y a vraiment quelque chose de, moi, déjà d'agréable de partager ce moment-là avec un autre membre des philosophes publics parce que finalement, on découvre aussi les gens qu'on croit connaître. Bon, et on découvre aussi soi-même, mais aussi l'autre. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment dans la dualité qui est propice à un échange, je l'espère, hein, de qualité. Mais en tout cas, ça demandait une concentration. Enfin, moi, j'étais épuisée à la fin, au bon sens du terme, mais comme si j'avais marché longtemps. Je sais pas si vous avez ressenti ça. Voilà, effectivement, ce qui, peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on est comme à un point de jonction très très fort entre un échange avec une singularité, une pensée propre. On a souvent été ravis par un esprit critique, intelligent, et en même temps par des choses voilà, qui nous... Bon, on l'a déjà dit à l'émission précédente, mais des choses qui nous rapprochent fortement.
Moi, ce qui m'a étonnée, je pense, c'est la diversité des approches, c'est-à-dire la diversité des personnes qui trouvaient à s'arrêter. Alors, de la dame, nous venant quasiment nous applaudir, hein, en réaffirmant les principes ou les quelques principes qui... à partir desquels nous trouvions nous réunis, philosophes publics, sur la Canebière, nous disant la nécessité de parler ensemble, nous disant la nécessité d'aller les uns vers les autres pour dialoguer, pour échanger, à une dame voilée, s'asseyant, pour d'abord tester notre position, afin de savoir si elle pouvait s'autoriser à nous adresser quelques mots sur la tolérance et sur la nécessité d'être tolérant à des personnes prenant la parole pour affirmer des principes sans qu'il y ait de la moindre question du moindre doute, hein, dans leur prise de position ou dans leur propos. Alors moi, ce qui m'a enchanté dans tout ça, alors c'est effectivement la diversité, et puis c'est aussi de saisir ce qui des questions donc nouvelles apparaissaient. Voilà, ce qui, de mes questions, trouvait à résonner dans la question des autres et comment je pouvais peut-être mieux préciser mes propres doutes ou mes propres questionnements.
Oui, alors, je voulais juste ajouter trois petits points. D'abord, les roues tourneront à nouveau, hein, le 24 septembre sur la Canebière. Donc, s'il y a des passants qui veulent venir philosopher autour d'une table avec nous.
En haut de la Canebière, hein, près du kiosque à musique.
Voilà, côté de la girafe, ouais. Par là. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que je pensais vraiment, enfin, quand on avait conçu ce dispositif, je me suis dit, là, on est vraiment dans l'expérimentation parce qu'on est dans la rue, il n'y a pas de filtre. Et je me disais, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. D'abord, parce que les gens vont peut-être avoir peur de s'arrêter, parler avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Le mot philosophie peut parfois faire peur aussi, je l'ai constaté. Parce que ça peut intimider, parce qu'on peut avoir soit des mauvais souvenirs scolaires, soit tout simplement penser, voilà, justement, comme tu dis, Monique, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on va pas comprendre, etc. Donc ça, c'était formidable d'avoir réussi comme ça à avoir autant de monde. Et puis, ce qui était assez particulier, je l'ai remarqué avec toutes les personnes avec qui j'ai discuté, c'est que souvent, on commençait par du récit. Par du récit de soi, en fait. Hein. Alors nous, avec Samy, on avait fait « La société nous empêche-t-elle d'être nous-mêmes ?» Mais quel que soit le sujet, finalement, les gens avaient d'abord envie de nous dire qui ils étaient, d'où ils venaient, etc. Bon, et ça, c'était le moment de la narration, de l'identité narrative. Et petit à petit, on travaillait des concepts, on travaillait des idées, on se demandait, à partir de ce récit singulier, hein, qui est purement singulier, finalement, qu'est-ce que c'est qui pourrait nous faire penser tous ensemble ? Et ce passage de la pure singularité du récit à l'universel quasiment, au concept, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Ça m'a rappelé des choses sur ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie narrative, c'est-à-dire cette idée aussi que une société, pour se gouverner, pour être gouvernable, elle a besoin de se comprendre. Et on se comprend par les récits. Et je trouve que dans les roues comme ça, dans la rue, ce qui est intéressant, c'est ce croisement en fait entre l'identité singulière de chacun liée à ce qu'il a vécu et à ce qu'il a envie de dire, surtout le choix qu'il fait de ce qu'il a envie de dire. Et puis justement ce basculement dans le concept, dans le questionnement, dans la problématique, dans l'universel. Et ça, c'est faire ça autour d'une table, parce qu'en fait en classe, on aimerait faire ça aussi. Mais en classe, bon, d'abord on a 35 élèves et là on était 2 ou 3. Et puis en classe, il y a un jeu institutionnel, c'est-à-dire que bon, voilà, on est le prof, c'est figé. Il y a l'évaluation qui est toujours derrière, alors que là les gens avaient bien compris, on leur a dit il n'y a rien à signer, on n'a rien à vendre, etc. Et à partir de là, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est joué et qui était vraiment très très riche.
Oui, et on a discuté finalement comme si on était des amis. Et les gens ne se connaissaient pas. Il y avait plusieurs personnes qui s'arrêtaient à nos tables qui parfois ne se connaissaient pas. Et sont repartis, ils avaient presque l'impression qu'ils étaient amis, qu'ils avaient pu discuter
alors,
sur des choses.
Ouais, pas tous, hein. Je te coupe la parole, Hélène. Sans vergogne. Parce qu'il y a eu aussi un petit peu d'adversité et d'animosité. Bon, c'est bien aussi, ça nous fait grandir nous aussi. Mais des gens qui pensaient avoir affaire donc, à des... D'abord, on n'est pas... Enfin, je ne me pense pas philosophe, j'enseigne la philo, donc des gens qui pensaient avoir affaire à des philosophes ou du moins à des enseignants de philosophie, donc des esprits dogmatiques. En tout cas, c'est arrivé, quoi, des gens pensaient avoir affaire à des esprits dogmatiques, aux pensées figées, et ils essayaient d'une manière ou d'une autre de nous mettre dans cette posture qu'on essayait de défaire. Donc là, c'était pas copain-copain, quoi. Mais ça a permis... après, moi, ça m'a fait un peu avancer.
Mais, ouais. Oui, enfin, l'idée, c'est de... Notre idée, c'est d'ouvrir les gens. Donc évidemment, les gens qui... Enfin, beaucoup de personnes ont du mal à s'ouvrir. Et puis, il y en avait qui venaient, de toute façon, avec l'intention de ne pas s'ouvrir. Donc, en effet, ces gens-là, on a du mal à les faire bouger, mais... En fait, notre objectif au sein de ce collectif, c'est aussi quand même d'essayer de faire bouger même ces gens-là. Et il faut leur donner la parole, il faut leur permettre de s'exprimer. Et peut-être qu'en rentrant chez eux, comme toi, ils se sont dit « mais en fait, c'était pas idiot ce qu'elle m'a dit ».
D'ailleurs, ils avaient envie de revenir. Ouais. Il y a souvent des gens qui disaient « mais quand c'est que vous revenez ?» On a essayé aussi parfois de leur donner un petit conseil de lecture ou un film à regarder ou une émission de radio à écouter.
Tu leur donnais tes notes?
Oui, moi je leur donnais les notes carrément.
Pendant, ouais, quand
on
dit,
oui, pour qu'il y ait une petite trace. Après, le problème aussi des happenings dans ce genre-là, c'est qu'il n'en reste pas grand-chose. Et il y a toujours cette question, voilà, d'être dans l'expérimentation, mais aussi d'essayer de construire. Et là, je pense que l'aventure des roues, elle ne fait que commencer, puisqu'on ne l'a fait qu'une fois, on le refera. Mais il y a forcément quelque chose aussi qui va se tisser, qui va se pérenniser. On va avoir envie à un moment de garder une petite trace de ça, une trace collective.
On va acheter du papier carbone, tu l'as dit.
Et d'autres petits groupes, par contre, procéder autrement, parce qu'il y a une souplesse, hein, c'est pas quand. Donc ce qui était dit, était écrit sur des papiers et après les petits papiers en question, on les mettait à sécher, enfin il pleuvait pas d'ailleurs, mais sur un fil avec des épingles à linge.
Les gens lisaient voilà. Les petits papiers affichés.
Comme ça, ceux qui arrivaient pouvaient lire.
Alors là, on était dans un espace très très ouvert, parce qu'on était dans la rue, puis on a aussi travaillé dans un espace très très fermé, qui est le centre pénitentiaire des mineurs à Marseille, à la Valentine. Donc peut-être Céline, tu peux en dire un mot, puisqu'on est intervenu ensemble tous les deux. Plusieurs fois.
Donc on est intervenu avec Marc à deux, toujours selon ce même principe qu'on répète, mais qui est de dire qu'on n'est pas nécessairement d'accord et qu'on ne tient pas un discours univoque, et que dans l'équivocité surgit plus de place pour une autre parole. Donc là, on intervenait pour vous décrire assez rapidement le dispositif, avec dans des tout petits ateliers, ils étaient 4 ou 5 par séance, qui dure quand même, chaque séance dure entre 45 minutes et 1 heure. Donc c'est pas, enfin, on peut pas approfondir, mais c'est pas superficiel, c'est long. Voilà, 1 heure, il y a des choses qui se passent. Je vous donne 2 questions. Donc on est arrivé avec la première question qui était proposée par le professeur de français, puisque l'idée c'est aussi les philosophes publics de se mettre au service. Et là, si on peut... aider un collègue, puisqu'il y a une structure école, c'est obligatoire dans l'établissement pénitentiaire. Et donc ce collègue nous a dit, réfléchissons ensemble sur la violence. Donc évidemment, le mot violence en prison résonne, il prend une proportion très très forte, peut-être même que moi je n'ai jamais entendu. C'est-à-dire que d'arriver avec l'idée de travailler sur la violence en prison, c'est très différent d'en parler ailleurs. Voilà, donc c'est à la fois ouvrir les esprits, ou en tout cas essayer, mais c'est aussi en tout cas pour moi ouvrir le mien. Et donc là, la première question, c'était à quelles conditions les rapports humains peuvent-ils échapper à la violence ? Je vais juste raconter une parole d'un jeune qui est resté dans mon esprit. On a discuté, on a mis en place qu'est-ce que la violence, violence physique, violence morale. Et il me dit, mais en fait, on est violent quand on est ignorant. Et donc je lui dis, bah oui, c'est une grande perspective philosophique, entre autres, c'est celle de Platon. Et on en parle, on fait le mal parce qu'on ne sait pas. Et puis il me regarde et il dit, mais on fait aussi le mal parce qu'on est ignoré. Et en fait, ce qui m'a étonnée, c'est ce passage entre ignorant et ignoré, qui est en fait un double champ de réalité à partir d'un même mot. Et en fait, ça désignait une question philosophique immense. Et c'était peut-être j'en fais trop, mais c'est pas grave. C'est un vrai cadeau que d'entendre cette ouverture à partir d'une même racine.
Et sur le thème de la violence, c'est vrai que c'était un thème qui avait été proposé par les enseignants, c'est même un projet sur l'année. Et il y a aussi des jeunes de l'EPM qui ont un peu contesté ce thème-là en disant « bon, mais c'est pas parce qu'on est en prison qu'on ne peut parler que de la violence ». Et il me semble aussi que ce que peut apporter parfois la philosophie dans ces milieux-là et auprès de gens qui sont quand même en souffrance, qui sont dans des histoires très très compliquées, très, très douloureuses, c'est justement de se décentrer un petit peu en fait. Et peut-être que les moments aussi où ça a été intéressant, c'est les moments où on a parlé d'autres choses, où on a pris des chemins un peu de traverse qui les amenaient justement à restaurer leur statut de sujet et pas simplement de jeunes incarcérés, mineurs, c'est-à-dire qui a un départ dans la vie très compliqué. Et c'est assez intéressant parce que certains d'entre eux ont justement cette capacité à mettre à distance. Et ça se travaille. Alors, ça se travaille aussi en petit groupe, donc ça, c'est intéressant. Et puis, comme le disait Céline aussi, je voulais prolonger là-dessus. Pour nous, ce qui est important, c'est de travailler avec les équipes, en fait. Parce que c'est vrai que, les philosophes publics, pour l'instant, on n'est qu'une vingtaine, donc c'est pas beaucoup. Et des champs potentiels pour travailler avec les gens, il y en a plein, en fait. On est très, très sollicités. Donc, l'idée, c'est qu'on peut pas toujours directement s'adresser au public. Mais par contre, on peut aider les équipes en prison, les équipes dans les centres sociaux, etc. On en parlera tout à l'heure, sans doute. Aider les équipes à clarifier les concepts. En ce moment, ça a l'air assez compliqué au niveau de la religion, au niveau de la croyance, au niveau... Et en fait, ce qu'on peut apporter, c'est aussi un petit soutien, puisque nous, on vient pas faire le travail à la place des gens, hein, surtout pas. On vient pas se substituer à ce qui se fait déjà et qui est souvent très intéressant. On vient simplement accompagner, un peu aider.
Ou aussi, puisque c'est une question qui avait été débattue, on voudrait surtout pas prendre le travail de quelqu'un. Donc c'est bien pour ça qu'en tout cas dans l'établissement pénitentiaire, on intervient avec un professeur. Mais bien sûr que s'il y avait de l'argent, pas pour nous en tout cas, puisque ça a été posé que c'est gratuit comme intervention. Mais on ne voudrait pas rendre service à un État qui se désengage de certains endroits de la société. Et dans la prison, c'est une des explications, puisqu'on sait bien qu'il n'y en a pas qu'une, de certains jeunes qui se retrouvent plus du tout dans notre état. Voilà, je voulais juste aussi parler d'une autre question qu'on a proposée aux jeunes, c'était « Sommes-nous libres d'être ce que nous sommes ?» Donc pareil, on a construit, on essaye d'ordonner aussi. En prof, on dirait de faire des parties, je vais éviter ce langage, mais quand même, c'est bien de montrer qu'il y a plusieurs sens de la question et plusieurs axes qu'on peut approfondir. Et à la fin, il y en a un qui nous dit « Mais alors, que faut-il faire de sa vie ?» Et là aussi, c'est une question à la fois qui peut-être a dit « Bon, mais alors, c'est le désordre, alors qu'est-ce qu'on fait ?» Mais c'est aussi une vraie question. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? Et ça, quand on va en prison, mais pas seulement, mais encore une fois, mais dans la philosophie, parfois, on revient à des questions presque brutes et qui, pour moi, à chaque fois, refont sens, un sens humain, une expérience presque inaugurale à partir de laquelle on peut justement sortir de l'idée que la parole, ce serait une guerre, qui c'est qui va gagner, qui c'est qui parle le mieux, puisque eux aussi, à un moment, il faut aussi déjouer ça, ils vont se dire « mais je vais parler plus fort qu'eux ». Et en fait, il y a des choses comme ça dans la philosophie qui viennent décaler et qui font qu'on peut se parler.
Peut-être Monique, tu voulais dire deux mots sur un autre projet qui est en cours de construction avec les Baumettes.
Oui, d'autant que fort de votre expérience, une partie d'entre nous avait envie d'intervenir au Baumet, mais sur des thèmes pas du tout liés justement à la réalité ou aux réalités au pluriel de la prison. C'est-à-dire qu'on voulait intervenir sur la mode, les animaux, l'importance des mots, les sentiments. C'est-à-dire éviter justement de réifier ou de réitérer la réalité finalement de l'institution, de ses duretés. C'est-à-dire éviter la liberté, l'État, la violence, l'institution, la justice. Alors aussi parce que, par précaution peut-être, hein, c'est-à-dire qu'il nous a semblé que ces thèmes-là invitaient directement à parler de soi, mais sous la modalité d'un récit, parfois peut-être enfermant, interdisant d'en sortir pour aller justement vers une réflexion voilà, ensemble sur un thème. Alors bon, le projet est bien avancé, mais nous en sommes effectivement pour le moment seulement à l'état du projet, qui consisterait à aller au Baumet, rencontrer 8 femmes détenues, adultes, durant une heure et demie.
Pourquoi tu dis 8 ?
Alors, parce qu'on s'est demandé, on s'est posé la question de la taille, d'une taille permettant justement à chacun de pouvoir prendre la parole. On s'est dit qu'avec 3 intervenants philosophes publics, en dessous de 8, le rapport de proportion était mauvais, hein, car il fallait que les femmes détenues donc fassent le poids d'une certaine manière pour pouvoir prendre la parole avec aisance, et qu'au-delà, nous on pensait que tout le monde n'aurait pas également la parole ou insuffisamment la parole.
Il y a le problème de la langue aussi, si j'ai bien compris.
Non, il semble que les adultes soient francophones.
Bon.
Non, il semble qu'on n'ait pas ce problème de la langue qui aurait pu se poser éventuellement avec les détenus mineurs, mais là, pour des questions d'organisation interne à la prison, les mineurs et les majeurs se rencontrent difficilement, trop difficilement. Enfin, les contraintes sont trop importantes pour que nous puissions les rencontrer en même temps. Donc nous aurons affaire seulement aux adultes.
Parce qu'il était question à un moment quand même d'avoir un support visuel, de partir peut-être de photos. Voilà, c'était juste pour faire allusion à ça, parce que la parole, évidemment, c'est ce qui nous réunit, et puis c'est intimement lié à la pensée. Mais ça peut être aussi une façon de libérer la parole que de partir d'images.
Oui, on avait bien sûr cette idée-là. Alors, ce qu'on a exclu, c'est le fait de partir de textes, parce que nous ne sommes pas tous égaux devant les textes. Mais partir d'images, en effet, oui. Le premier thème que nous allons aborder, celui de la mode. Et il nous semblait qu'il y avait beaucoup à penser ensemble, voilà, à propos de ce thème-là.
Et par rapport à l'expérience que nous avons eue en prison, notamment à l'EPM, entre autres, ce que je trouve intéressant dans la philosophie parfois, et on le vit aussi en classe parfois avec des élèves qui viennent de milieux à très faible capital culturel, qui n'ont pas forcément énormément de connaissances, et qui parfois sont en échec, par exemple en français ou dans des matières justement où avoir de la culture, c'est un peu une condition sine qua non pour réussir. Paradoxalement, en philosophie, quand on sollicite par exemple leur sens logique, leur capacité à enchaîner des arguments, ils découvrent en eux-mêmes des capacités intellectuelles, des capacités de raisonnement qu'ils ne soupçonnaient pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant dans la manière de restaurer la subjectivité ou de l'instaurer. C'est des très jeunes gens qu'on a et qui sont souvent déscolarisés depuis longtemps. Je trouve que justement, cette idée qu'on peut faire de la philosophie sans être très cultivé, sans être très instruit, et qu'on peut découvrir ça, c'est l'idée.
Oui, Marc, je profite de ta parole pour vous lire. Ils nous ont fait des petits retours écrits, et il y a eu un retour écrit d'un jeune qui disait « On a compris qu'il ne fallait pas être si intelligent que ça pour être philosophe, vu que c'était facile. » Et c'était juste précédé de « C'était une très bonne expérience de pouvoir avoir un dialogue avec des philosophes. Ils nous ont fait voir le monde d'une autre façon. » Et du coup, je crois que ça redit bien que le geste, c'est d'abord de déplacer les regards plus que de leur apporter un contenu. Enfin voilà, je voulais juste préciser ça, puisque tu disais qu'effectivement, il y a une disposition à la philosophie qui vient très très vite et qui pour moi, ne requiert pas tant, enfin En tout cas, pas tant que ça de capital culturel
c'est
au
ce
départ.
Que, c'est exactement voilà. ce que je disais. Oui. C'est pour ça que je pense qu'amener la philosophie dans ces lieux-là est très important, parce que justement, ça peut restaurer l'estime de soi de ces jeunes gens qui se sentent très, très, très loin de l'écrit, de la culture, etc. Juste pour terminer, parce que je crois qu'on arrive
moi, j'aurais juste voulu dire, parce qu'il y avait un principe quand même peut-être de base, je ne sais pas si on peut appeler ça un principe de bienveillance, mais si on retourne à des textes donc de Socrate, parce qu'il y a un problème qui pouvait se poser, c'est qu'en fait, ce qui doit être compris assez vite, c'est que y a le dialogue philosophique, c'est pas une lutte de pouvoir, quoi. Bon, après, Socrate, je sais pas, on va pas parler de Socrate, mais ne pas confondre, enfin, avoir raison, je veux dire, Socrate, dans ce texte, dit qu'il est bien content quand il se rend compte qu'il a eu tort, si ça peut l'enrichir, d'idées vraies, quoi. Donc, c'est ce qui, quand même, nous est commun, hein, c'est faire passer le dialogue vraiment avant avoir raison, avoir tort. J'ai eu le dernier mot, j'ai pas eu le dernier mot. D'ailleurs, je vais pas prendre le dernier mot, je vais laisser à Marc, hein, comme ça.
Et avant de laisser le dernier mot à Marc, juste Marc, en prison, t'as dit aux jeunes qui étaient là que le racisme n'avait aucune assise théorique et que tu pouvais démontrer que le racisme c'était faux. Et à ce moment-là, moi, c'était un... Je ne sais pas si j'aurais eu cette démarche-là, mais de ressentir le... Et après, tu l'as démontré, de ressentir la puissance de cette parole. Et je me suis même demandé, mais sans doute à tort, mais pourquoi ces paroles de base, elles ne sont... Enfin, comment c'était possible que ce soit une telle découverte, puisqu'on avait eu la parole juste avant d'un jeune qui trouvait quand même que les Noirs étaient des meilleurs ouvriers que les Blancs.
Et il était noir, lui. Hein,
et lui était noir.
Un jeune homme noir. Oui.
Et c'était pas du second degré. C'est-à-dire, et quand toi, Marc, t'as pris cette parole en montrant que tous les tests à l'aveugle invalident toute théorie raciste, mais c'est une bouffée d'air. Voilà. Bon.
Merci.
Je te laisse le dernier mot.
Non, le dernier mot, c'est juste pour annoncer la prochaine émission où on évoquera des projets qui ont été réalisés avec des centres sociaux, des maisons pour tous. Et on évoquera aussi l'importance, que ce soit en prison, dans les centres sociaux ou ailleurs, l'importance aussi de finaliser un petit peu nos interventions, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement des interventions où on discute et où on s'arrête là, mais aussi de concevoir de vrais projets avec nos interlocuteurs. Voilà, merci, à bientôt.